En dehors des classes à examen, les collèges et les lycées situés dans les zones orange sont fermés en Guyane du 4 au 14 octobre. Une situation qui met les enseignants, les parents et les enfants dans un grand désarroi. Le recteur de l'Académie de Guyane, Alain Ayong-Lekama, lors d'un point presse hier lundi matin, a tenu à faire la lumière sur la situation et en a profité pour rassurer tout un chacun. Radio Mayuri Campus était sur place, je vous propose de l'écouter.
Comment ça se passe? Ça se passe qu'on a déjà l'habitude, hein. C'est juste la troisième fois qu'on fait la même chose à cause de à cause du Covid. Comme vous le savez, donc la situation sanitaire s'aggrave dans certaines parties du territoire, les parties dites en zone orange, et donc nous avons pris des mesures conséquentes, et depuis ce matin, les premiers retours que j'ai sur les collèges, les classes de troisième sont rentrées normalement, et sur les lycées, toutes les classes à examen, des CAP, des deuxièmes années CAP, des bacs pro, c'est les bacs généraux, première et terminale, sont rentrés normalement ce matin.
Alors combien d'élèves sont en cours en distanciel?
Combien d'élèves sont en distanciel? Vous savez, là, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais la zone orange constitue à peu près 90% de nos élèves. Ce qui fait que quand on en enlève quelques-uns dans la zone orange, ça réduit quand même pas mal. Donc aujourd'hui, on doit être à 60% d'élèves qui sont en cours et donc 40% en distanciel.
C'est-à-dire, on a le nombre de classes d'élèves qui sont concernés par les mesures de prise que vous avez prises
on peut vous les donner, le nombre de classes. Vous comptez toutes les classes de 6e, 5e et 4e. Je sais aujourd'hui qu'en zone orange, rien que les 3e, donc ceux qui sont en présentiel, c'est 220 classes. Et sur toutes les autres classes, on pouvait multiplier par 4. Hein, c'est comme ça qu'on fait à peu près les ratios. Les 3e, vous multipliez par 4. Et sur les lycées, c'est les classes de seconde. Donc vous prenez les effectifs du lycée, qui sont à peu près de 35 000 élèves. Vous en enlevez un tiers. Donc vous enlevez 10 000.
Mais justement, est-ce que vous avez ces chiffres? Oui,
vous pouvez les avoir. Je ne vais pas vous les donner de tête. Mais évidemment que mes services peuvent vous donner tous les chiffres que vous souhaitez.
Alors, comment ça se passe, justement, les cours en distanciel? Quelles sont les modalités?
Les modalités, c'est que chaque établissement a l'obligation de faire un plan de continuité pédagogique. Mais l'avantage, malheureusement, je peux m'exprimer comme ça, c'est que comme c'est la troisième, la quatrième fois que nous sommes dans ces situations-là, donc les plans de continuité pédagogique, ils sont quasi prêts. Et donc, j'ai demandé à tous mes chefs d'établissement vendredi de m'envoyer leur plan de continuité pédagogique, et donc on les a bien reçus, ils sont tous prêts, avec, évidemment, on ne va pas se cacher, quelques difficultés à quelques endroits, notamment dues au fait à la faiblesse du matériel et des équipements des familles. Mais, dans l'ensemble, comme c'est du second degré, nous avons un logiciel qui s'appelle Pronote, qui fonctionne quasi normalement, et dans d'autres endroits, on fait avec ce qu'on peut, ça va même jusqu'à utiliser WhatsApp, dans certains endroits, sinon à utiliser des ressources physiques. Mais les chefs d'établissement sont prêts, et évidemment tous les enseignants, et je veux saluer l'implication des enseignants, c'est-à-dire que l'avantage que l'on a aujourd'hui, vous vous souvenez des discussions que nous avions eues, c'est que comme on a quand même fait la rentrée, ça veut dire que, en zone rouge avant, ça veut dire que les enseignants savent quels sont leurs élèves, les élèves savent quels sont leurs camarades, donc il y a une entraide comme ça, il y a une capacité de faire qui est quand même meilleure que si on n'avait rien fait, et aujourd'hui, les enseignants, très sincèrement, même les endroits les plus durs, les enseignants donnent tout ce qu'ils peuvent pour assurer cette continuité pédagogique.
Et dans les zones où c'est compliqué d'avoir cette continuité pédagogique avec des jeunes qui n'ont pas forcément une connexion Internet ou peut-être un ordinateur, même pour suivre les cours en distanciel, est-ce que vous savez dire aujourd'hui qui sont ceux qui sont concernés? De quelle manière est-ce qu'ils sont aidés?
Oui, comme vous savez, on est en zone orange. Hein. En zone orange, donc c'est l'île de Cayenne, Macouria, Kourou. On sait quels sont les quartiers qui sont socialement défavorisés et dans lesquels il y a des difficultés pour avoir un accès ou un équipement Internet. Donc ce que nous faisons, nous essayons d'accompagner via les établissements, parfois même par du prêt d'ordinateur et surtout par les connexions, c'est-à-dire l'achat des clés 4G quand on peut le faire. Et on n'a pas de sujet particulier comme on pourrait avoir, comme on a eu dans le temps, parce que ces zones-là sont quand même couvertes en moyenne, sauf dans certains quartiers, la Charbonnière à Saint-Laurent ou des choses comme ça. Mais on y arrive. Donc on utilise, comme je vous disais, quand c'est pas possible, on utilise WhatsApp. nos élèves sont grosso modo équipés en téléphone. Et donc on arrive quand même à les toucher, on arrive à leur envoyer des ressources. Et l'avantage, comme je disais, c'est que comme ils ont eu contact avec leurs enseignants, ça veut dire que les enseignants sont aujourd'hui en capacité de savoir quels sont les besoins des uns et des autres. Donc c'est quand même plus fin, c'est quand même plus fin la manière de les suivre.
Combien d'élèves sont concernés par cette situation? Combien d'ordinateurs et de clés 4G vous avez eu à distribuer ce jour?
Très sincèrement, chaque établissement en Guyane et là en France a ce qu'on appelle le fonds social de soutien. Et qu'ils peuvent utiliser le fonds social, je ne vais pas les compter dans chacun des établissements, le nombre d'élèves. Si vous voulez, le nombre d'élèves global en Guyane qui ont des problèmes d'équipement, il y en a à peu près 20 000, tout degré confondu. Et aujourd'hui, donc, on peut dire qu'il y a, c'est toujours des ratios, sachant qu'il n'y a qu'un tiers des lycéens qui ne sont pas en cours, il y a trois quarts des collégiens, bien évidemment que, sauf que c'est dans des zones qui sont quand même relativement couvertes, donc bien évidemment que ça ne va pas toucher 5000 élèves, on va dire ça comme ça. Mais là encore, les établissements sont équipés, ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas suivre la continuité pédagogique dans leur domicile, on trouve toujours un moyen, notamment, par exemple, on a les classes de seconde qui passent leur évaluation actuellement, et évidemment que ces élèves-là, on les reçoit pour faire leurs évaluations de seconde, comme on fait les évaluations de sixième. Donc, on essaye de s'organiser au mieux, et les chiffres, comme vous les voulez, je peux vous les donner en sortie d'ici, je ne vais pas vous les lister tous, mais on est totalement transparent sur ces questions-là, et que, très sincèrement, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de familles qui se plaignent. Peut-être ça arrivera, mais je n'ai pas beaucoup de familles qui se plaignent du fait que la continuité pédagogique pour leur enfant, à ce stade, donc depuis ce matin, soit particulièrement difficile.
Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les parents qui sont quand même inquiets de ces nouvelles fermetures auxquelles ils sont confrontés?
Oui, ça, je comprends totalement même le désarroi, je vais dire ça comme ça, des familles. Mais on a un ennemi qui est commun, c'est le Covid, et qu'on a des arbitrages à faire qui sont faits par les autorités sanitaires. Comme je vous disais tout à l'heure, les taux d'incidence sur la zone orange, à Kourou, on est au-delà de 700. À Cayenne, on reste encore très haut, au-delà de 600. À Saint-Laurent, ça monte assez vite, Saint-Laurent-Mana. Donc on a un choix. Soit on continue de se dire, on ne fait rien, avec le risque qu'à terme, on soit obligé de fermer longtemps. Donc je prends mes responsabilités en réduisant les brassages dans ces zones-là, où la circulation est forte, et je comprends les parents, et il y a même des parents qui me disent « Oui, moi j'ai une fratrie, j'ai un enfant en primaire, un enfant au collège, un enfant au lycée, comment je fais ?» Oui, je comprends totalement, mais sauf qu'on est obligé d'anticiper, si on ne veut pas que demain, si les choses s'aggravaient, on se retrouvait dans la situation où on est obligé de fermer longtemps. Donc je préfère assurer encore une certaine continuité sur les classes à examen, parce que les examens sont nationaux, et donc ils sont en compétition avec les autres enfants de France, et des autres enfants de France qui aujourd'hui vont à l'école parce que la situation en métropole est relativement saine aujourd'hui, même si vous avez vu qu'il y a 47 départements qui vont même passer en zone totalement verte sans masque dans le premier degré. Donc j'assure, et j'assume le fait que je donne une priorité aux classes à examen, mais en même temps, je comprends que ça désorganise les familles, je comprends que ça désorganise les emplois du temps des parents, mais très sincèrement, je comprends, mais on est obligé de faire des choix, on est obligé des choix que j'assume, et le risque pour nous, collectivement, c'est qu'on se retrouve comme en 2020, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait ça, et au lieu d'avoir anticipé et limité les brassages, on se retrouve dans la situation où on est obligé de fermer. Et fermer, dans quelle durée, je ne sais pas. Je sais qu'on a tendance à penser en Guyane que l'éducation nationale est responsable de tout. Mais vous savez, les équipements des établissements, les équipements des familles, et ainsi de suite, ce n'est pas nécessairement la responsabilité de l'éducation nationale. Vous voyez ? Donc, évidemment que nous faisons avec l'ensemble de nos partenaires le mieux que l'on peut pour y arriver, mais, et encore une fois, je vous dis, les collèges et lycées sont eux-mêmes équipés, Maintenant, il y a la question de l'équipement des familles. Et qu'on y arrive, et grâce effectivement à l'implication des enseignants. Mais le recteur d'académie ne peut pas prendre l'initiative de se dire qu'il va fournir un équipement, tous les établissements lui-même, il va fournir un établissement, toutes les familles. On essaye d'avancer avec nos partenaires, notamment GUACLIC, sur les équipements informatiques. On essaye, et en privilégiant évidemment les familles qui sont les plus défavorisées. Comme je vous ai dit, il y a un fonds social d'établissement qui existe, qui peut permettre d'accompagner aussi un certain nombre d'élèves. Les chefs d'établissement ont la main là-dessus. Donc, dans la mesure de nos compétences, nous faisons au mieux.
En classe de primaire, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de classes qui sont fermées en cas de Covid. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres au moins du primaire, parce qu'on n'a pas eu non plus de retour?
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les, vous savez, on les compte par jour. Hein, j'ai toutes les données par jour. Aujourd'hui, le pic que nous avons eu, c'était la semaine dernière, on avait 60 classes fermées dans le primaire. Et en plus, 60 classes fermées, sachant que dès qu'il y a un cas, on ferme. Et 60 classes, il faut les rapporter au nombre de classes du primaire. Au nombre de classes au primaire, on est aujourd'hui à peu près à 4000 classes. Voilà à peu près les chiffres actuels. Sachant qu'on a on essaye de considérer la partie qui est concernée, c'est que la zone orange. Toutes les autres parties, c'est-à-dire les zones vertes, sont en cours depuis le 2 septembre sans strictement aucun problème. Ce qui fait que ça limite quand même l'effet des restrictions qui sont mises en place aujourd'hui. Et donc, voilà, on a atteint un pic. Et c'est difficile de faire la somme, puisque quand il y a des classes qui ferment, d'autres ouvrent, et ainsi de suite. Mais le pic qu'on a atteint, c'est une fermeture de 60 classes dans la journée.
Donc, comparativement à l'année dernière, est-ce que la vague est moins forte? Il y a moins de classes fermées que l'année dernière?
On est aujourd'hui dans le phénomène qui est nouveau, et c'est pourquoi j'ai restreint les collèges. Sur le premier degré, on atteint à peu près notre maximum. L'année dernière, de fermeture de classe, c'était le 18 janvier. Dans l'année scolaire dernière, 18 janvier 2021, on était à 54 classes, sur 3008 à peu près qu'on avait. Et maintenant, on atteint 60 sur les 4000. Donc on est à peu près dans les mêmes proportions. La difficulté que l'on a aujourd'hui, et qui m'a été signalée par les autorités sanitaires, c'est que ce variant touche particulièrement les 11-15 ans. Puisque on avait l'année dernière le variant standard, il touchait un peu les lycéens, très peu les collégiens et pas du tout le primaire. Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a à peu près du primaire, mais surtout les incidents sont sur les collèges, donc les 11-15 ans. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, j'ai limité trois fois plus les brassages en collège qu'en lycée. Et que si un phénomène qui est un phénomène sanitaire, dont on est obligé de prendre les mesures les plus adaptées, mais c'est très très nouveau. Nos collégiens sont plus touchés que dans la vague précédente.
Dans ce climat, où en est le dossier des jeunes lycéens qui avaient des soucis d'affectation il y a quelques temps?
Là aussi, on est en train de trouver les solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on peut même dire qu'ils sont quasi tous en situation d'aller à l'école très vite. Comment on a trouvé des solutions? C'était, pour préciser, c'est des affectations des élèves en seconde, qui passent du collège au lycée. Il ne vous a pas échappé que la mise à disposition de classes, donc les constructions scolaires, ne sont pas la responsabilité du rectorat. Le rectorat affecte dans les murs qui lui sont dédiés. Donc, malgré cela, nous essayons de trouver des solutions. Et nous avons trouvé une solution avec deux partenaires. Le premier, c'est la collectivité territoriale. Et avec la collectivité territoriale de Guyane, qui nous a mis à disposition les locaux de l'OPRF à Cayenne et à Kourou, ça nous permet aujourd'hui d'avoir 19 formations de plus en voie professionnelle qui va absorber une bonne partie des élèves concernés. Le deuxième partenaire, c'est le RSMA, qui va nous permettre de rajouter 3-4 formations supplémentaires si besoin, mais très sincèrement, aujourd'hui, on peut considérer, c'est vrai que ça prend du retard.
Combien d'élèves manquent-ils aujourd'hui à trouver une affectation? Combien est-ce qu'il en reste sur...
Puisqu'on inscrit tous les jours à l'heure d'aujourd'hui, on est à 540 à peu près, aujourd'hui on a une petite centaine. Mais on va y arriver. on va y arriver, notamment grâce, comme je vous disais, à la deuxième lame, qui est celle du RSMA, de notre partenaire RSMA. Pourquoi c'est compliqué? Quand il s'agit des élèves qui demandent la voie générale, il suffit de mettre un bungalow, même si on n'a plus beaucoup d'espace, et on met des élèves dedans. Comme c'est des voies professionnelles, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, comme c'est des voies professionnelles, il faut des ateliers, il faut des plateaux techniques pour pouvoir mettre en place ces formations-là. Et donc, si on veut mettre en place ces formations, il faut les trouver. C'est ce qu'on a trouvé à l'OPRF et qu'on a trouvé aussi au RSMA, des plateaux techniques disponibles.
À Saint-Laurent-du-Maroni, il y a un mouvement de colère des ATSEM qui disent que voilà, il y a trop de cas de Covid chez les enseignants. Qu'est-ce que vous répondez à ce personnel inquiet, en difficulté?
Vous savez, maintenant, dès que vous toussez, on dit que je ne suis pas médecin.
Non, mais qu'ils doivent s'occuper, ils doivent gérer des classes seuls, alors que, parce que les profs sont au cas contact ou cas Covid et ne peuvent pas être présents en classe pour s'occuper des enfants.
Ça arrive, le virus circule. Je vous ai dit que dans les zones oranges, ça continue, les chiffres sont assez importants. Et puis, on sait que Saint-Laurent-Manas, ça augmente. Et qu'effectivement, vu la politique restrictive que nous menons, que dès qu'il y a un cas Covid, on met à l'isolement tous les cas contacts, et évidemment que s'il y a un cas Covid enseignant, s'il y a un cas Covid personnel, on met à l'isolement beaucoup d'autres personnes. Bien évidemment, dans ces situations-là, c'est normal qu'il y ait plus d'élèves qui soient en besoin d'encadrement. C'est tout à fait normal, c'est dû à la circulation du virus. Et on ne peut pas revenir sur des mesures d'isolement, les alléger. Pour ce fait-là, vous voyez, vous comprenez bien, c'est une question de santé publique, et je comprends la difficulté. Ça nous est même arrivé, dans certains établissements, d'être obligé de faire des fermetures administratives, tout simplement parce qu'on n'avait plus de surveillants. C'est-à-dire, tous les surveillants étaient cas contact. Mais est-ce qu'on va se dire, on ne les met pas à l'isolement, les surveillants, et on laisse les établissements ouverts? Non, je ne ferai jamais ce choix-là. Je fais le choix de fermer l'établissement, parce que quand vous avez 20 surveillants et qu'il y en a 15 qui ont déjeuné ensemble, évidemment, ils sont considérés comme cas contact, même si, après les tests que nous faisons, il y a très peu qui reviennent positifs, mais entre-temps, on est obligé de les mettre à l'isolement. Et c'est vrai que leur classe, puisque leur classe ne sont pas, et ils n'ont pas de classe, évidemment, il y a beaucoup d'enfants, plus d'enfants par tête à surveiller. C'est sur la question de la vaccination. Et la vaccination en milieu scolaire. Je ne vais pas faire de leçons ou de dogmatisme de quoi que ce soit ou d'idéologie. J'ai juste un sujet, c'est que j'ai beaucoup d'élèves qui sont dans les voies professionnelles et qui doivent faire leur stage dans des secteurs où il y a de l'obligation vaccinale.
L'IPSI,
c'est mais toutes les formations professionnelles en cuisine, si on veut faire un stage, enfin CAP cuisine, il faut l'obligation, on a l'obligation vaccinale dans ce secteur-là, la restauration. Ceux qui font hygiène, ceux qui font social, ceux qui font médico-social, toutes ces formations-là, on doit faire ce qu'on appelle chez nous des PFMP, un milieu professionnel, et c'est obligatoire. Et ça compte pour leur diplôme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir son CAP si on ne fait pas sa formation en milieu professionnel. On ne peut pas avoir un bac pro si on ne fait pas dans certains secteurs, si on ne fait pas la formation en milieu professionnel. Et donc, on est déjà dans une situation où ça commence à devenir un peu tendu. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'amener la vaccination dans tous les lycées pro, pour offrir le service de vaccination aux élèves qui le souhaitent, avec évidemment l'autorisation de leurs parents, et évidemment j'en profite aussi pour les enseignants, et éventuellement même pour les parents d'élèves. L'alerte que je fais, c'est que je fais au travers de cela aux Guyanais, aux parents d'élèves notamment, c'est qu'on risque de se retrouver dans la situation où les 2000 élèves qui sont dans des formations où il y a obligation vaccinale n'arrivent pas à avoir leur diplôme. Voilà. Donc, on va proposer le vaccin. J'espère bien. Je ne fais de leçons à personne, je ne fais d'obligation à personne. C'est une question qui est volontaire, mais il y a certains pour lesquels c'est plus délicat que d'autres, parce qu'il y va de leur diplôme. Et donc c'est ce que je souhaitais vous rajouter.